Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On va dire c'est la mi-temps. Alors on va repartir et l'envie, elle est toujours là. Donc on est déterminé surtout à ne pas lâcher.
L'UNSA, le premier syndicat de la RATP, annonce suspendre à partir de lundi la grève dans le métro, les RER, les bus. Fin du mouvement contre la réforme des retraites ou recherche d'un nouveau souple. On posera la question à Olivier Samain.
Autre front de la contestation, la réforme du bac avec des épreuves annulées à Clermont-Ferrand ce matin suite à l'action des enseignants.
Les jeunes se posent des questions. Est-ce que leur bac aura la même valeur que celui de Blaise Pascal? Et ils ont raison de se poser ces questions-là. Parce que c'est pile le monde dans lequel vous nous entraînez, M. Blanquer et M. Macron. Quoi.
Des policiers soupçonnés d'insultes racistes envers un de leurs collègues. La police des polices enquête sur ces propos tenus dans un groupe de messagerie.
Les mots qui sont employés sont d'une violence telle qu'ils sont absolument insupportables. Et comme ça ne concernait pas que lui, il a décidé d'en saisir la justice.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Est-ce le signe que la grève dans les transports touche à sa fin? Au 46e jour du conflit de la réforme des retraites, les métros et les bus vont de nouveau circuler normalement en région parisienne, Fabienne
Lemoyle. En tout cas, l'UNSA, le premier syndicat de la RATP, vient d'annoncer qu'il suspendait la grève, alors que c'était l'un des principaux bastions de la contestation dans la bataille contre cette réforme, et que ce syndicat disait encore il y a une semaine après la lettre d'Édouard Philippe et le retrait provisoire de l'âge pivot que la grève allait continuer, Olivier Samain.
Oui, mais voilà, 45 jours de grève, une vraie fatigue et surtout des retenues sur salaire qui commencent à peser très lourdement. Voilà ce qui a conduit les AG du réseau ferré de la RATP à voter une suspension du mouvement à compter de lundi. Au passage, le mot « suspension » n'apparaît pas dans le communiqué de l'UNSA RATP. Les assemblées générales, dit le texte, ont décidé de réorienter le mouvement. On notera la nuance pour s'engager sur une autre forme d'action, lequel mouvement est toujours présenté comme illimité. Pour le chef de file des conducteurs de métro et de RER, Laurent Djebali, le gouvernement aurait tort de se réjouir trop vite.
On va dire c'est la mi-temps. C'est la mi-temps et on va repartir. Et l'envie, elle est toujours là. Donc moi, je l'ai vu encore dans les terminus. Les collègues ne sont pas prêts à lâcher. Et le gouvernement, il peut penser que ça reprend. Moi, je lui dis, c'est juste peut-être cette fois-ci la trêve, mais on va revenir très très vite. On est déterminé surtout à ne pas lâcher.
Alors le travail des conducteurs de RER et de métro va donc reprendre de manière très massive lundi. Il y aura quand même encore des perturbations sur les lignes 5 et 13 du métro ainsi que sur la ligne B du RER, prévient le dirigeant de l'UNSA RATP. Mais les Parisiens peuvent s'attendre à une fin de semaine prochaine à nouveau compliquée avec la journée d'action annoncée pour le vendredi 24 janvier, jour de présentation du projet de loi de réforme des retraites en Conseil des ministres. Et ce jour-là, on peut parier que les conducteurs se remettront en grève.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1. Et déjà aujourd'hui, on notait une nette reprise du trafic dans le métro avec 7 lignes sur 14 qui fonctionnent. Normalement, toute la journée, quand les week-ends précédents, le trafic était réduit à certains créneaux horaires. Côté SNCF, nette amélioration aussi, avec un trafic TGV quasi normal et 9 TER sur 10.
Cette annonce d'une suspension de la grève par l'UNSA, en tout cas, intervient alors que le climat n'a cessé de se tendre ces dernières heures autour du débat sur la réforme des retraites. Envahissement du hall de la CFDT hier et surtout hier soir, soirée mouvement pour Emmanuel Macron dans un théâtre parisien.
Une trentaine de manifestants opposés à la réforme se sont rassemblés devant le Théâtre des Bouffes du Nord où le président et sa femme assistaient à une représentation. Le groupe a même tenté de pénétrer à l'intérieur de la salle et le chef de l'État a dû être mis en sécurité quelques minutes. Mais Adrien Beck, pas question pour l'Élysée de dramatiser les choses et de laisser transparaître la moindre inquiétude.
Oui, et pas question de laisser penser qu'Emmanuel Macron serait parti précipitamment à cause des manifestants. Depuis hier soir, l'Élysée martèle que le chef de l'État a pu assister à toute la pièce, même s'il a été mis à l'abri quelques minutes alors que des manifestants tentaient de s'introduire dans le théâtre. Il n'empêche, ce qu'on a pu voir, c'est tout de même l'image d'une voiture présidentielle contrainte de quitter le théâtre, encadrée par un cordon de policiers, sous les huées et les sifflets de quelques dizaines de manifestants. Un acte condamné par la secrétaire d'État Agnès Pannier Runaché ce matin sur Europe 1.
C'est une atteinte à la démocratie. Là, on en appelle aux citoyens et on dit aux citoyens, est-ce que vous voulez être gouverné par la violence ou est-ce que vous voulez être gouverné par le vote? Aujourd'hui, c'est antidémocratique cette approche. C'est la minorité contre la majorité. C'est la violence contre le respect des institutions. C'est de ça qu'on parle.
Et ces modes d'action sporadiques se multiplient ces derniers jours. Envahissement du siège de la CFDT, vœux de la ministre de la Justice perturbés par des avocats. Un ministre l'analysait ainsi cette semaine. Avec la baisse du mouvement social, dit-il, ils vont vouloir faire du symbolique. C'est une convergence des extrêmes.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Notez que sur Twitter, Christophe Castaner a réagi en disant que les violences, les intrusions et les dégradations de ces derniers jours appelaient à une condamnation ferme et sans ambiguïté. Et alors que ce soir, des incidents marquent la dispersion d'une manifestation Gare de Lyon. Et puis notez aussi un départ d'incendie tôt ce matin à la Rotonde, ce restaurant dans le quartier Montparnasse où Emmanuel Macron avait ses habitudes en tout cas avant de rentrer à l'Élysée, où il avait réuni ses soutiens, on s'en souvient, entre les deux tours de la présidentielle. On ne sait rien des motivations de ce qui est un acte volontaire qui a conduit à la dégradation du mobilier du restaurant sur une dizaine de mètres carrés.
Et nous serons sur place à 19h dans le journal. Autre front de contestation, celui contre la réforme du bac, avec des syndicats d'enseignants qui appellent à des actions à l'occasion des premières épreuves en ce moment.
Dans le Var, certains profs veulent mettre 20 sur 20 à tous les candidats. Et à Clermont-Ferrand, ce matin, des épreuves ont dû être annulées, Lise Dangean.
Et oui, car dès 7h30 ce matin, ils étaient environ 300 militants, enseignants, mais aussi étudiants, devant les grilles du lycée Blaise Pascal, qu'ils ont réussi à franchir pour pénétrer dans l'établissement. Une action qui s'est déroulée dans le calme, mais qui a toutefois poussé la proviseure à annuler les épreuves. Les fameuses E3C, symbole de la réforme du bac, introduisant une part de contrôle continu dans l'obtention de l'examen. Et le choix de ce lycée n'a clairement pas été fait au hasard. Écoutez Frédéric Canguilhem de la CGT Éducation de Clermont-Ferrand.
Là, on était au lycée Blaise Pascal, donc c'est le lycée d'élite, entre guillemets, de Clermont-Ferrand. Et les jeunes de Brugières, des quartiers nord de Clermont, se posent des questions. Est-ce que leur bac aura la même valeur que celui de Blaise Pascal? Et ils ont raison de se poser ces questions-là. Parce que c'est pile le monde dans lequel vous nous entraînez, M. Blanquer et M. Macron, quoi. Avec des études réservées à une élite.
Parcoursup qui fera un choix des élèves dans les lycées les plus cotés. Et puis pour les autres, ils n'auront plus que les yeux pour pleurer. C'est un monde à l'anglo-saxonne. Et nous, on n'en veut pas de ce monde-là.
Alors, cette intrusion a été condamnée par le rectorat de Clermont-Ferrand, qui confirme que ces épreuves et celles prévues dans d'autres établissements de la région auront bien lieu.
Élise Dangean. Et puis si on parlait d'une suspension de la grève à la RATP à partir de lundi du côté de l'UNSA, en tout cas la grève elle se poursuit à l'Opéra de Paris avec l'orchestre de l'Opéra qui a donné un concert gratuit sur les marches du Palais Garnier cet après-midi. Image symbolique de cette bataille contre la réforme des retraites. On y revient à 19h.
Et à 18h15, on s'interrogera avec mon invité Jérôme Sainte-Marie sur ces opérations coup de poing. Sont-elles classiques en fin de conflit?
18h08, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
À la une également, des policiers soupçonnés de racisme à Rouen après la découverte de discussions sur un groupe de la messagerie WhatsApp.
Et tout est parti de la plainte d'un de leurs collègues pour injures à caractère racial et incitation à la haine. L'IGPN, la police des polices, a été saisie jeudi. Et ces policiers, Salomé Legrand, sont soupçonnés d'avoir tenu des propos haineux et racistes envers un de leurs collègues noirs, des détenus et même des magistrats.
Absolument, c'est fortuitement mi-décembre qu'un policier de l'unité affectée au dépôt du tribunal de Rouen découvre cette conversation. Un groupe WhatsApp où ses collègues échangent sur tout et rien, commentent les audiences et tiennent des propos antisémites, homophobes, racistes à son encontre, mais aussi au sujet des détenus qu'ils sont chargés de surveiller et d'accompagner dans les différents bureaux des magistrats. Choqué, il décide de porter plainte, explique son avocate, Maître Yaël Godefroy.
C'est-à-dire que ça va au-delà du supportable. Alors le racisme n'est jamais supportable, bien évidemment, mais les mots qui sont employés, les expressions qui sont employées sont d'une violence telle qu'ils sont absolument insupportables. Mon client n'a même pas pu lire la totalité des messages. Il m'a demandé à moi d'en prendre connaissance pour déposer plainte par la suite. Donc cette ultra-violence a convaincu mon client de ne pas en rester là. Et comme ça ne concernait pas que lui, il a décidé d'en saisir la justice.
En interne, une douzaine de policiers fait l'objet d'une enquête administrative. Certains devraient être prochainement convoqués pour un conseil de discipline. Mais les 6 les plus actifs dans la conversation sont eux sous le coup d'une enquête judiciaire confiée donc à la police des polices.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe.
On va terminer, Fabienne, avec ce coup de théâtre dans le monde de la mode hier soir.
Eh bien oui, le couturier Jean-Paul Gaultier a annoncé que mercredi prochain, ce serait son dernier défilé de haute couture, sans plus d'explications. Et pour la journaliste grande spécialiste de la mode, Laurence Benahim, cela arrive bien trop tôt.
Il quitte la scène de la mode sans que la France ait eu le temps de considérer que c'était un grand classique. Tout d'un coup, de se dire qu'en fait, il travaillait depuis plus d'un demi-siècle, ça m'a semblé étrange. Car en France, les couturiers vont vite, mais l'histoire traîne et on continue toujours à dire que c'est l'enfant terrible de la mode. Et je suis très touchée par son flair, sa culture qui n'est jamais académique, qui intègre l'idée de la rue, mais aussi du voyage, de toutes les rencontres réelles et imaginaires qu'il a pu faire. Donc je pense que Jean-Paul Gaultier a suffisamment d'intelligence, de flair pour réinventer toujours autre chose.
La spécialiste Laurence Benahim, grande spécialiste effectivement de la mode, qui répondait à Marion Gaultier, et elle le disait, Jean-Paul Gaultier nous réserve des surprises puisqu'il a dit que mercredi, il annoncerait justement comment il allait transformer ce défilé de haute couture.
Ah, mais Gaultier toujours dans le renouveau, oui, c'est un homme plein de surprises. Merci beaucoup Fabienne Lemoyle, et à très bientôt sur Europe 1.
Il est 18h11.